Restez chez vous.
Vous sauverez des vies.
Radio CIA des élèves du collège André Malraux de Granville. Nous sommes actuellement en 2020, mais comment imaginez-vous le monde en 2036? Les technologies nous envahiront-elles comme nous effraient les médias? Aujourd'hui, nos reporters ont interrogé les élèves du collège sur leur avenir en 2036.
Élèves du collège André Malraux, comment te vois-tu dans 15 ans?
Alors, je me vois dans mon appartement, alors voilà, avec une femme, un chien, des chats. J'adore surtout les animaux, les lézards et tout ça. Voilà, j'adore le gaming, voilà. Et je voudrais travailler aussi sur la mécanique moto, voilà.
Je pense que dans 15 ans, j'aurai peut-être un métier et peut-être même une famille avec des enfants. Et j'espère que je serai heureuse. Et en fait, j'aimerais bien vivre proche de la mer, mais je sais pas du tout. Parce que je suis encore un peu perdue.
Dans une grande ville, dans un appartement, avec un travail fixe, de préférence, et dans un métier qui me plaît.
Un métier, par exemple?
Programmateur de festival, par exemple.
De
musique, j'aimerais bien.
Comment pensez-vous que le réchauffement climatique va évoluer d'ici 2036?
Je pense qu'en 2036, le climat va s'empirer.
Il va évoluer grâce au plastique. Parce qu'il y a trop de pollution en fait. Il y a trop de plastique, trop de. Je sais pas moi.
Et comment il va évoluer? Ah bah il fera de plus en plus chaud. Et les glaciers ils fondent tout ça du coup.
Je pense que le réchauffement climatique va s'aggraver de plus en plus par le CO2 dans la mer, bien évidemment, que les poissons vont un peu, la végétation marine, on va dire. Genre ça va un peu s'atténuer, on va dire. Que les animaux dans l'ensemble vont manquer de nourriture, vont avoir moins d'abri, parce qu'avec les arbres et tout. Voilà, je pense que ça va s'aggraver dans le négatif.
Je pense qu'il va s'empirer et qu'on va tous mourir.
Je pense que ça va empirer parce que la France ne fait pas du tout d'efforts. Là, j'ai pas envie d'en dire plus parce que je pourrais être vulgaire.
Les avis sur le sujet du réchauffement climatique sont plutôt pessimistes. En effet, si on ne fait pas d'efforts à ce niveau, cela pourrait réchauffer nos climats. 2036 pourrait être une année charnière dans l'histoire du réchauffement climatique. Selon les calculs de Michael Mann, c'est en 2036 que la température à la surface de la Terre atteindra un seuil dangereux pour nous, humains. Si d'ici là, la température à la surface de la Terre augmente de 2 degrés par rapport à celle de la fin du 19e siècle, alors nous aurons de quoi nous inquiéter sérieusement. En 2036, on aura 30 ans. Nous sommes allés demander aux élèves du collège de 4e comment ils envisageaient les avancées technologiques.
Penses-tu que le progrès a une fin, qu'en 2036, toutes les questions auront une réponse niveau technologie?
Non, je pense pas. Parce qu'il y a des problèmes technologiques qu'on peut pas résoudre. Y a-t-il de l'eau sur Mars? On pourra pas y aller avant 2036.
Je sais pas ce que j'en pense.
Je pense qu'en 2036, le progrès ne cessera toujours pas d'évoluer.
Aujourd'hui, nous accueillons Maëlle, spécialiste des nouvelles technologies. Pensez-vous que nous serons dépassés par toutes ces technologies?
Alors non, je ne pense pas qu'on sera dépassé par la technologie, mais de nouvelles inventions sont prévues et je vais vous en parler. Les nouveaux téléphones. Samsung a commencé avec le téléphone pliable. D'autres ont suivi. En 2036, il y aura peut-être même un smartphone invisible quand il est éteint, ou un autre pliable qui se transforme en montre, ou bien, existant déjà mais de mauvaise qualité, l'holographique qui se présentera et qui fera une figurine 3D par exemple, le multi-écran qui aura un écran HD, la 5G, on peut aussi le contrôler avec la voix, ou bien encore l'écologique. Google a essayé de le faire et a finalement repoussé l'idée. Une boîte néerlandaise a créé le Fairphone, le fameux portable écologique. Le créateur prévoit d'en vendre en kit ou déjà monté. D'autres entreprises ont prévu le téléphone implanté dans notre tête sous forme de puce électronique, mais pas très réaliste en vue des technologies qu'on a en ce moment. Maintenant, voyons voir comment les gens imaginent le téléphone du futur.
je pense qu'il n'y aura plus de téléphone, ce sera des sortes de puces implantées dans les yeux, les oreilles, je sais pas quoi. Il n'y aura même plus d'objets téléphone en fait.
En 2036, je ne peux pas deviner exactement ce qui passera, mais je pense que peut-être il y aura des écrans transparents, où les téléphones seront plus légers dans la main. Peut-être on aura des ordinateurs dans les lentilles, dans les yeux, je sais pas.
Notre reporter Célestine est allée demander à la principale, Madame Lichnik, ce qu'elle envisageait pour le collège dans 16 ans, en 2036.
Alors, comment voyez-vous l'école, l'enseignement dans 16 ans, en 2036 ?
Vous avez combien de temps ? 10 heures, 15 heures devant vous ? Parce que c'est long, comment je vois l'école. Alors moi, j'aimerais une école qui soit beaucoup plus accompagnante, avec sûrement des élèves et des adultes qui soient peut-être plus encore dans une relation de confiance, avec aussi une évolution des pratiques pédagogiques. Donc une école qui serait une école où il y aurait beaucoup plus d'évidence dans le fait que les enfants accepteraient vraiment que ça fait partie de ce qui les aide à grandir. Tous les enfants trouveraient leur place, et dans lequel on aurait des adultes qui seraient vraiment convaincus de pourquoi ils sont là et de leur mission. Donc une école en tout cas plus originale, plus créative, qui rende les élèves plus autonomes, et qui les aide à davantage à devenir véritablement des élèves du 21e siècle, avec toutes les nouvelles compétences de communication, de relationnel. Quelque chose qui ne soit pas que du domaine du programme, que du domaine des savoirs, mais bien domaine d'apprentissage plus riche, plus varié, plus créatif, plus originaux, et autour des adultes qui soient heureux d'être là et d'encadrer tout cela.
Et à 30 ans, qui aura-t-il dans notre assiette ? Inès s'en est chargée.
La nourriture va sûrement changer d'ici 2036, en fonction de nos empreintes carbone. Nous mangerons sûrement des insectes, cafards, criquets et plein d'autres espèces. Ou encore une certaine sorte d'algue qui a le goût de bacon, mais qui est meilleure pour la santé, ce que certains pays ont déjà fait. La population va énormément augmenter, car en 2036, nous serons déjà environ 9 milliards d'humains sur Terre.
Si vous voulez un robot nommé Petunia, avec un lance-lame et une scie à métaux, appelez le 3640.
80 centimes l'appel.
En 2036, les combats de robots seront très populaires.
Au revoir.
Donc si j'ai bien compris, en 2036, on mangera des insectes, il fera plus chaud et il y aura des téléphones invisibles. Merci à toute notre équipe et rendez-vous en 2036.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, bienvenue sur les Chroniques du Sport, une émission sur le sport. Moi, c'est Enzo. Aujourd'hui, nous sommes au collège André Malraux pour savoir si le sport est utile au collège. Pour commencer, Louis va nous présenter M. Perrina, qui est le professeur de la section voile du collège. Bonjour Louis.
Bonjour à tous. Donc, M. Perrina, professeur d'EPS au collège Malraux, professeur en charge de la section sportive voile, il dirige la section depuis à peu près 15 ans.
Combien y a-t-il d'élèves dans la section sportive voile ?
Alors, dans la section sportive voile, il y a 25 élèves en 4e, 3e et 18 élèves en option voile 5e.
Que font les élèves pendant la période où il fait trop froid pour aller naviguer ?
Alors, pendant la période hivernale, c'est-à-dire qui commence après Noël jusqu'au mois de mars, les élèves font des cours théoriques. Les cours théoriques sont assurés au collège, ainsi que des visites, visite du sémaphore, visite du canot de sauvetage, et ainsi que des interventions de navigateurs professionnels qui viennent exposer leur expérience, échanger avec les élèves. Et puis, entre autres, là, cette année, on a eu deux belles expériences, puisqu'on a eu deux élèves qui ont participé à la Transac chaque verbe, qui sont venus présenter aux élèves leur exploit et leur régate.
Vous êtes allé 6 fois d'affilée au championnat de France de voile UNSS. Pensez-vous diriger la meilleure section sportive de l'académie ?
Oui, section sportive très dynamique. Et puis en plus, on est dans une catégorie excellence, c'est-à-dire qu'on rencontre les meilleurs élèves et les meilleurs navigateurs de l'académie et aussi nationaux. Donc c'est vrai que on s'en sort pas mal. Donc c'est bien, c'est une section sportive qui est structurée, qui fonctionne depuis maintenant presque pas loin de 20 ans et qui s'adresse à des élèves aussi très motivés. Voilà, donc oui, on peut considérer que c'est au moins une des meilleures sections sportives de l'académie, si ce n'est pas la meilleure.
Caliste Antoine et Martin Louchard sont devenus des navigateurs professionnels. Est-ce que la voile au collège est un vrai tremplin pour la voile à haut niveau ?
Alors, elle peut l'être, la preuve. La voile scolaire et la section sportive peut être un tremplin pour le haut niveau. Caliste Antoine et Martin Louchard l'ont prouvé. Maintenant, il y a aussi d'autres élèves, comme Solar Rajalu, qui navigue, lui non pas sur Habitat, mais sur voile légère, et qui est dixième français, qui a été au niveau national et qui a fait des régates internationales. Donc c'est vrai que ça peut l'être. Et c'est un petit peu le but.
Qu'apporte la section voile aux élèves ?
Elle leur apporte de se perfectionner et d'acquérir des compétences d'un bon niveau, de voir d'un très bon niveau. Elle leur apporte aussi un travail collaboration et d'équipe. Donc elle développe l'esprit d'équipe, de responsabilité, d'autonomie.
Quelles sont les qualités que développe la pratique du sport au collège ?
On est là pour développer des compétences motrices, mais ce n'est pas que des compétences motrices, parce que ça entraîne aussi des compétences psychologiques, de solidarité entre les élèves, de responsabilisation, de citoyenneté. Donc à la fois à travers une pratique sportive, on se rend compte qu'on développe aussi plein d'autres compétences.
Je m'appelle Martin Richard, j'ai 18 ans et je fais de la voile. Je fais de la course au large, précisément.
Pourquoi vous avez décidé de faire de la voile ?
Et parce que c'est ma passion. Il y en a qui font de la musique comme métier, du cheval. Et moi, j'ai décidé de faire la voile car j'ai envie de vivre de ma passion.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire ?
Et moi, j'ai commencé du coup au collège Malraux, là où vous êtes avec Loïc Perrina en section voile. Et petit à petit, j'ai pu naviguer justement avec des professionnels qui font que ça et qui en font leur métier. Et ça m'a donné envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, maintenant je me lance dans la course large au niveau professionnel.
Pour toi, le sport au collège est-il utile et pourquoi ?
Le sport au collège est-il utile ? Oui, c'est même fondamental. Le sport, c'est d'une un vrai atout pour la santé et pour la forme physique. C'est même essentiel. Et après, je dirais que c'est aussi une école de la vie, pas forcément au niveau collège, mais c'est souvent là que ça commence, parce qu'on en fait régulièrement. Et c'est vrai que c'est une école de la vie, apprendre avec les autres, et notamment pour les sports en équipe. Donc je pense que c'est très important et fondamental.
Merci. Explique-nous ton parcours de la 6e à l'heure d'aujourd'hui.
Alors, en 6e jusqu'à aujourd'hui, donc au niveau scolaire, je fais le parcours classique en général, et un parcours voile. Donc moi, j'ai commencé avec la section voile jusqu'à la 3e, et depuis la 4e, je suis parti du Yacht Club de Granville, qui m'a permis de progresser, d'atteindre un autre niveau dans la voile.
La section voile au collège, qu'a-t-elle apporté ?
Et celle qui m'a tout appris, parce que moi, je suis arrivé en 6e, je connaissais pas grand-chose à la voile, donc elle m'a appris à naviguer, elle m'a appris à s'occuper d'un bateau aussi, parce que ça reste un sport mécanique. Et puis voilà, ça permet de rencontrer du monde aussi, et ça m'a donné le goût de la voile.
Comptes-tu rester longtemps encore dans le domaine de la voile ?
J'espère bien. Après, on verra combien de temps, mais j'espère rester un petit bout de temps. Oui.
Le sport t'aide-tu dans la vie quotidienne ?
Oui, ça aide dans la vie quotidienne. Après, je pense qu'on s'en rend moins compte quand on en fait tous les jours, mais je sens que je suis en forme. Ça peut être mon petit effort comme quand je fais du sport. Et après, comme je disais tout à l'heure, le vivre ensemble, ça aide d'être plus sociable et de savoir bien se comporter que d'être solitaire dans son coin et insolent.
Tu as fait la Transat Jacques Vabre, c'était oui. Une sacrée aventure. T'as aimé ?
Ouais, le Jacques Vabre, c'était ma première expérience au large et c'est vrai que c'était une belle aventure. Et ouais, j'ai carrément aimé, ouais.
C'est l'heure du jeu de la célébrité. Pour y participer, c'est très simple. Vous appelez le 3632, je tire quelqu'un au sort. Je vous dis l'énigme sur une célébrité. Si vous trouvez le nom et le prénom de celle-ci, vous remportez la somme de 5000 euros. Le sport, c'est pas que des performances, c'est aussi des bonnes actions. Louis va vous présenter la course parrainée du collège qui a eu lieu le 18 octobre 2019.
Donc la course parrainée est un événement caritatif où les élèves se font parrainer au nombre de tours de terrain. Ils récoltent de l'argent pour la banque alimentaire, le FSE et l'association sportive. Et pour nous parler de la course parrainée, M. Signerbio, professeur de PS au collège André Malraux.
Depuis combien de temps la course parrainée existe ?
La course parrainée existe maintenant depuis 6 ans. C'est une action qu'on renouvelle chaque année et chacun participe pleinement à cette action.
Comment l'idée vous est venue ?
L'idée était tout simplement de créer une action qui soit un peu collective au niveau de l'équipe EPS. Et l'objectif, c'était d'impliquer l'ensemble des élèves pour pouvoir apporter un peu d'argent pour le FSE, mais aussi pour le fonctionnement de l'association sportive.
Combien a-t-elle rapporté d'euros ?
Cette année, la course parrainée a rapporté 6800 euros.
Quelle classe a rapporté le plus d'argent ?
La classe qui a rapporté le plus d'argent est la classe de 5e C qui a rapporté un total de 460 euros.
Combien y avait-il de participants ?
Au niveau des participants, on a l'ensemble des élèves du collège qui ont participé, ce qui représente à peu près 600 élèves en comptant les dispensés qui n'ont pas couru.
Merci de nous avoir accordé cette interview. Au revoir.
Et en parlant de la course parrainée, on ne peut pas s'empêcher de vous dire qu'on a gagné une médaille pour avoir fait le plus grand nombre de tours.
Le chroniqueur et grand sportif Arthur va nous donner son avis sur le sport.
Bonjour à tous. Tout le monde aime le sport. Mais pour moi, le sport ne sert absolument à rien. La preuve, si tu veux rester en pleine forme, tu prends des médicaments. Le dopage, oui, c'est interdit, mais ça sert à faire du sport sans effort, et sans être fatigué, et sans avoir de crampes. Les footballeurs, par exemple, sont de très bons comédiens. Autre exemple, en section sportive, voile, un petit pilote automatique, un petit moteur sur les katas, les lasers et les optimistes, plus besoin de se fatiguer, ça file tout seul. Moi, je fais du sport tous les matins sur TV Sport, dans mon canapé et sans effort. En fait, le sport, c'est reposant.
Nous avons tiré au sort et c'est Silas qui est avec nous. Bonjour Silas.
Salut tout le monde.
Alors, tu es prêt ?
Ah oui, je suis prêt.
On est parti. J'ai 5 ballons d'or, j'ai changé d'équipe récemment. Qui suis-je ?
Cristiano Ronaldo.
Tu as remporté un chèque de 5000 euros.
Merci, salut tout le monde.
Salut. Aujourd'hui, nous avons appris que le sport est utile au collège. Et ça, c'est génial. Merci de nous avoir écoutés. C'était les chroniques du sport. Au revoir.
La ville de Granville a un message pour vous.
Suite aux dernières directives du gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le maire de Granville a obtenu une dérogation pour le maintien du marché du mercredi, place du 11 novembre, en garantissant les mesures de distanciation sociale nécessaires. Les producteurs bio du marché du mardi soir y sont également présents. Le marché du samedi en centre-ville est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour vos courses alimentaires, privilégiez les commerces les plus proches de votre domicile. Retrouvez les noms, jours et horaires d'ouverture des commerces de première nécessité de votre commune sur le site www.ville-grandville.fr.
Monsieur, bienvenue à On se met tous au vert. Ce matin, nous avons avec nous Rose.
Bonjour.
Lily.
Coco.
Nathan.
Bonjour.
Et Karl.
Bonjour.
La semaine dernière, nous nous sommes rendus au collège André Malraux de Granville. Au programme de notre émission, nous allons avoir la présentation de ce qu'est la transition écologique, ce qu'il y a déjà au collège pour aider, un reportage de Karl sur le Globe Nature, une anecdote de Nathan avec une éolienne, après une interview du cuisinier et d'un éco-délégué de Nathan, après le micro-trottoir de Lily, les élèves sont-ils concernés ? Et nous enchaînerons après avec la chronique de Rose, les bons gestes, et nous finirons par le jeu « Le sais-tu ?». Je vais vous expliquer c'est quoi la transition écologique. C'est changer nos habitudes pour diminuer notre impact sur la nature. Énergie renouvelable, privilégier le local. Cela permet entre autres de réduire nos émissions de CO2. Dans notre collège, il y a déjà un patio et des poules. Bonjour Karl.
Bonjour Mireille.
Karl, maintenant nous allons enchaîner avec ton reportage sur le Club Nature.
J'irai voir Monsieur Boussin, professeur d'histoire géo, et nous lui avons posé des questions sur le Club Nature.
Donc, que faites-vous au Club Nature ?
Alors, au Club Nature, on a différentes actions. On fait des sorties nature déjà, de ramassage de déchets, et puis on fait surtout du jardinage. Donc on a un jardin en permaculture, Et on fait également des ateliers zéro déchet où on fabrique voilà, des choses, de la lessive, du déodorant et puis des petites éponges. Voilà.
Avez-vous d'autres projets pour le club ?
Alors oui, donc déjà, enfin c'est très vaste. On a fait une mare. La permaculture, c'est déjà très vaste. On a aussi un poulailler pédagogique et on voudrait mettre en place aussi un rucher pédagogique, installer des abeilles au collège. On a aussi planté des petits fruits là récemment pour, comme on peut pas faire un verger, on a des groseilliers, des cassissiers, tout ça qu'on a fait venir d'une ferme bio. Voilà, donc tout est bio, les graines, la paille.
Et combien êtes-vous dans ce club ?
Alors c'est assez variable parce qu'on n'a pas une liste de noms et c'est ouvert à tous, tout le temps. D'ailleurs j'invite vraiment tous les élèves à venir participer quand ils voient qu'on travaille. Ils me demandent beaucoup comment on s'inscrit, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ? Mais il n'y a pas d'inscription. Hein. Vous venez, vous voyez qu'on travaille dehors, il fait beau ou pas. Et ben voilà, c'est le mardi et le jeudi de 13 à 14 heures. Et on est soit en train de bricoler à l'atelier, soit dehors dans le jardin. Faut pas hésiter à venir et puis à nous donner un coup de main parce que bon voilà, on avait une petite équipe d'une dizaine d'élèves. On travaille aussi avec les élèves de l'IME, mais petit à petit, il y a de moins en moins de monde et puis on trouve ça dommage. Alors, c'est peut-être parce que c'est la saison où il pleut beaucoup, mais on espère qu'avec le printemps tout ça, il y a des élèves qui vont revenir. Donc n'hésitez pas à venir.
Et maintenant, nous allons enchaîner avec l'anecdote sur l'éolienne de Nathan.
Bonjour Miaï.
Bonjour.
Donc oui, il y a une époque où le collège André Malraux avait une éolienne pour un bureau, donc un de leurs projets qui a été fait par Monsieur Graveau, pardon, désolé, prof de technologie. Alors un jour de grosse tempête, le frein de l'éolienne a cassé et du coup l'éolienne s'est mise à s'emballer et elle s'est mise à tourner très très vite. Tellement vite qu'on sentait vibrer dans le collège. On a dû rentrer tous les élèves à l'intérieur. Monsieur Graveau a essayé de l'arrêter, sans succès. Au bout d'un moment, l'hélice a fini par éclater. On a retrouvé des morceaux sur le toit du gymnase à plus de 50 mètres.
Ah oui, quand même, l'écologie peut être dangereuse. Maintenant, nous allons voir du côté des cuisines avec notre journaliste Nathan qui est allé interviewer un cuisinier.
Bonjour, nous allons vous poser des questions donc, pour la cuisine du collège. Donc la première question, c'est pour y a-t-il beaucoup de gaspillage ?
Oui, alors il y a un petit peu de gaspillage, mais on est encore au niveau du service restauration, on est à peu près dans les clous par rapport à les autres établissements.
Y aura-t-il des nouveautés pour la cuisine ?
Alors, des nouveautés pour la cuisine, oui, parce que bientôt, on fera au cours de l'année, il y aura encore des pesées de fêtes sur le gaspillage pour vous mettre en valeur combien que ça représente en poids. Et en valeur d'argent, on va le convertir au niveau ce que vous connaissez, style console de jeu, prix d'un smartphone, prix d'un abonnement Internet, voilà. Donc ça sera mis sur un tableau, c'est en cours de réalisation. Voilà.
Et que pouvons-nous faire pour réduire le gaspillage ?
Alors, pour réduire le gaspillage, au niveau du service de restauration, c'est de prendre dans son assiette ce qu'on va manger. Déjà. Et on va mettre en place bientôt, pour l'année prochaine, normalement, il y aura prévu un bar à salade. Avec que des crudités, pour que vous choisissiez ce que vous aimez comme crudité, et chacun composera son entrée pour réduire le gaspillage. Et il y aura juste le plat principal, les légumes et les féculents. Au niveau du service, c'est le dessert et le fromage. Voilà. Mais ça, c'est en cours aussi.
Cela vous choque de voir autant de gaspillage ?
Ouais, parce qu'il y a des pays qui souffrent. Même en France, on a des gens qui mangent pas à leur faim. Donc le gaspillage m'interpelle énormément étant chef de cuisine au Collège Malraux et par rapport au gaspillage qui peut être fait par les élèves. Quoi. Voilà.
Il y a eu aussi un nouveau rôle dans le collège depuis cette année, l'éco-délégué. Le journaliste est allé en interroger un.
Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi un éco-délégué ?
Alors, un éco-délégué, déjà c'est un élève qui essaie de faire bouger le collège pour qu'il soit le plus en transition écologique. Là, on va essayer d'obtenir le label 3D en avril. On a aussi des commissions à faire pour améliorer la vie au collège avec propos du zéro déchet ou de la nourriture à la cantine, par exemple.
Ça vous fait quoi, la pollution ?
Du mal. Non, parce que pareil, ça peut être rien. Nous, à Granville, on n'est pas tellement touchés, mais moi, je pense que c'est horrible parce que ça touche la chaîne alimentaire, par exemple. Et nous, on est les derniers à être touchés, puis on meurt beaucoup à cause de ça. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup plus de cancers, par exemple.
Comment pouvons-nous sauver la Terre ?
Honnêtement, moi, je pense qu'on ne peut pas sauver la Terre. On est une espèce humaine qui, comme si on avait été programmé en fait pour ça, on progresse en bêtise monumentale. Donc je pense qu'on peut pas, on peut faire mieux, mais on peut pas sauver la Terre.
Que penses-tu des initiatives du collège ?
Moi, je pense qu'elles sont très bien parce que c'est un bon pas de débat déjà pour le début. Et après, il faudra encore agrandir, faire mieux.
Cela fait combien de temps que le collège ont fait qu'il y a des éco-délégués au collège ?
Alors là, ça va faire 4 mois, je pense. Je sais pas compter. 4 mois, depuis presque le début de l'année, quoi. Donc on se fait des réunions presque un vendredi sur deux, presque tous les 4 mois.
Après l'interview de Nathan, nous sommes allés voir avec notre chroniqueuse Lily ce qu'en pensaient les élèves et les surveillants du collège André Malraux.
Merci Mylène. Alors aujourd'hui, nous allons interroger sur l'écologie des élèves et des surveillants, sur ce qu'ils pensent. Voici leur réaction. Est-ce que l'écologie, ça vous intéresse ?
Oui, forcément, oui.
Et pourquoi ?
Parce que je pense que maintenant, c'est ancré dans les mœurs et qu'il y a besoin d'en parler.
Est-ce que l'écologie, ça vous intéresse ?
Oui, vraiment, parce que c'est notre avenir et c'est important.
Est-ce que l'écologie vous intéresse ?
Absolument.
Qu'est-ce que vous faites pour ?
Je trie mes déchets, j'ai un compost, j'ai un appareil qui permet de réduire mes déchets plastiques. Je me balade souvent en vélo ou en skateboard pour limiter les trajets en voiture. Je prends les transports en commun.
Est-ce que l'écologie vous intéresse ?
Oui, l'écologie m'intéresse énormément. Moi, j'agis pour l'écologie en fabriquant des choses dans le zéro déchet, comme par exemple des lingettes démaquillantes lavables ainsi que des protections féminines lavables. J'utilise également à la maison des éponges lavables ou encore du savon ou du shampoing solide pour lesquels j'ai fabriqué des pochons à savon en tissu enduit ou en tissu éponge de bambou. J'ai aussi remplacé mon rouleau d'essuie-touche de table par des feuilles d'essuie-touche lavables en coton et tissu nid d'abeille. J'ai donc pour objectif, moi, de sensibiliser les élèves du collège Malraux à Granville sur l'écologie en leur proposant un atelier couture axé sur le zéro déchet. Les élèves viennent lorsqu'ils le souhaitent et créent leurs propres lingettes lavables ou encore des pochons pour les ranger.
Est-ce que l'écologie, ça vous intéresse ?
Oui, ça m'intéresse beaucoup.
Qu'est-ce que vous faites pour ?
Je trie mes déchets, j'essaie d'utiliser le moins possible la voiture et prendre surtout mon vélo. J'essaie de
gaspiller le moins possible.
Et tout de suite, nous enchaînons avec la chronique de Rose qui va nous expliquer les bons gestes.
Salut Miaï, tu vas bien ?
Oui, et toi ?
Nickel. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Toi, que fais-tu pour l'écologie ?
Moi, je trie tout ce qui est carton, papier, plastique et verre.
D'accord. Veux-tu des conseils ?
Oui, et je suis sûre que nos auditeurs aussi.
D'accord, c'est parti. Moi, je vais te dire ce que je fais personnellement. Voici les astuces pour ceux que ça intéresse. Les bons gestes pour mieux vivre dans notre environnement. Pour nous, les collégiens et adultes de l'établissement. Numéro 1. Pour bien progresser, nous suggérons un tri à chaque étage. Bac pour papier, plastique, carton, etc. Numéro 2. Il faut bien évidemment recycler le papier. C'est la base. Numéro 3. Il faut aussi qu'on parle de l'impression du papier. On en fait beaucoup trop imprimer. Nous devrions en imprimer moins. Ça gâche énormément d'encre et de papier. Numéro 4. Nous pensons qu'il faudrait placer des cours qui parlent d'écologie pour mieux vivre. On pourrait même faire une web radio sur l'écologie. Numéro 5. On éteint la lumière quand il y a du soleil à disposition, bien sûr. Numéro 6. Il faut absolument ramasser ses déchets, si possible, ceux des autres. Et mieux encore, ne pas créer de déchets. J'ai vu zéro déchet. Numéro 7. Ça serait bien d'acheter d'occasion pour moins polluer notre planète et garder nos appareils le plus longtemps possible. Numéro 8. Il vaut mieux acheter local qu'en ligne. Moins d'impact carbone et plus d'impact sur le social. Ça peut également aider les gens à trouver du travail. Voilà, Miaï, j'espère que tu as bien écouté mes conseils, vous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup.
Mais merci à toi. Je vais commencer à faire cela à partir de demain.
Bienvenue dans notre jeu Le sais-tu. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial Tom.
Bonjour, bonjour.
Je vais te poser 3 questions. Si tu as les 3 bonnes réponses, tu repars avec un iPhone 11 de 256 Go.
Trop bien.
Es-tu prêt?
Ah ouais.
Première question. Sais-tu à quoi sert de mettre le brick dans la chasse d'eau de vos toilettes?
Pour économiser l'eau.
Bravo, tu as une bonne réponse. La deuxième. Faut-il privilégier les transports en commun ou la voiture personnelle?
Ah bah les transports en commun.
Ah, quelqu'un de bien. Maintenant, la question plus difficile. Donne-moi un nom d'une association pour la protection de l'environnement.
Ah, c'est dur, hein. Avril.
Oh, bien joué. Vous avez gagné, monsieur.
Ah, j'ai envie d'avoir mon iPhone tout de suite.
Ah, bah tenez, je vous le donne.
Merci, Bing.
Transition écologique, elle est possible au collège si on met en place de tout ce qu'on a parlé. Merci de nous avoir écoutés à notre émission. On se met tous au vert et j'espère que vous reviendrez. Maintenant, je vais dire au revoir à Nathan.
Goodbye, my friend.
À Karl.
Au revoir.
À Lily.
Au revoir.
Et à Rose.
Au revoir, moi.
Au revoir à vous.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le journal du matin. Le thème de cette matinée est « Faut-il avoir peur des écrans ?» Nous avons demandé à notre journaliste Clément. Mais avant, n'oubliez pas, le premier qui nous appelle, je lui offre la meilleure surprise. Appelez le 7 13 69. C'est tout ce qu'il y a à faire, les amis. Le tirage au sort sera juste après les infos. Appel surtaxé 0,80 la minute. Et nous avons suivi un jeune collégien de 5e et nous allons vous raconter cette histoire.
Bonjour Tom, bonjour à tous. Je vais vous raconter la journée fictive de Théo en 5e. Théo se réveille en entendant le son de son téléphone sonner. Il est 6h30. Pendant qu'il déjeunait, il regarde des vidéos de jeux. Il se lave en écoutant sa radio de rap préférée. Après, il regarde ses réseaux sociaux dans son bus. Théo va en salle informatique pour le cours de français. Pendant 2 heures, il écrit une rédaction sur l'ordinateur. Ensuite, il va en techno, où là encore, il va utiliser Internet. À midi, il rentre chez lui, où il va regarder Netflix de 13h à 14h. Il va au foot jusqu'à 17h, puis il va faire ses leçons jusqu'à 19h. Enfin, il rejoue jusqu'à 22h. Le lendemain, ses parents le privent d'écran, car il a été trop violent et décroche en cours.
Et maintenant, retrouvons notre journaliste Clément. Alors, qu'as-tu trouvé sur ce sujet qui est les écrans?
Donc aujourd'hui, près de 75% des terriens possèdent un téléphone portable. Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est passé de 1 milliard en 2000 à plus de 6 milliards aujourd'hui, dont près de 5 milliards dans les pays en développement, selon la Banque mondiale. En France, à peu près 51 millions des Français possèdent un téléphone, sur un peu plus de 66 millions de personnes. Selon une étude, un Américain passe en moyenne 1460 heures par an devant leur téléphone portable. Nous passons en moyenne 2h12 par jour sur notre smartphone. Les enfants passent 3 heures par jour sur les jeux vidéo. En 2005, il y avait 75% des personnes à avoir un téléphone portable, alors qu'en 2018, 80% des personnes possédaient un mobile.
Maintenant, un reportage sur la question « Les écrans sont-ils nocifs ?» Un reportage signé Alexis et Raphaël.
Nous allons donc vous présenter une interview sur l'infirmière du collège André Malraux. Mon collègue nous a dit que les personnes entre 11 et 16 ans utilisaient les écrans pendant 2h12 par jour. Est-ce dangereux?
Bonjour, donc Mme Martin, l'infirmière du collège Malraux. L'utilisation des écrans est quand même déconseillée le soir avant de se coucher, puisqu'il stimule le cerveau. Donc plutôt à éviter sur le soir.
Est-ce que en trop longue durée, cela peut faire mal aux yeux, atteindre le cerveau?
Après, c'est pas conseillé sur un trop longtemps, parce que même au niveau social, C'est-à-dire qu'il vaut mieux aussi avoir des activités avec les autres. Donc éviter d'être trop longtemps sur les écrans à suivre.
Un second reportage sur l'atteinte à la vie privée sur les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Nous avons demandé à Madame Le Teinturier, CPE du Collège Malraux.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Nous allons poser quelques questions au CPE de l'établissement. Est-ce qu'il y a déjà eu un cas de cyberharcèlement ?
Alors, moi, je suis là que depuis septembre, donc je ne peux pas vous répondre sur les années d'avant, mais en tout cas, depuis septembre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un cas de cyberharcèlement.
Dans votre ancien établissement, est-ce qu'il y en a déjà eu un ?
Oui, il y a déjà eu des cas de cyberharcèlement, plusieurs.
Est-ce qu'il faut avoir peur des réseaux sociaux par rapport au cyberharcèlement ?
Alors, je pense que les réseaux sociaux, il y a pas de problème si on est bien entouré, en fait. On peut utiliser les réseaux sociaux, il y a pas de souci. Si on est bien entouré, si on a des parents derrière qui nous fixent des limites, si on n'y passe pas toute la journée ni tout le week-end, et qu'il y a un contrôle derrière ces réseaux sociaux, derrière cette pratique de réseaux sociaux.
Et pour vous, que signifie avoir peur des réseaux sociaux ?
Bah, pour moi, je pense qu'en avoir peur, c'est lorsqu'un élève, enfin un enfant, un élève, a accès aux réseaux sociaux et que malheureusement, il se retrouve confronté à la vie de plein d'enfants, de plein d'autres enfants qui peuvent insulter, moquer, menacer, racketter, bref, voilà, c'est de tout ça dont on peut avoir peur, mais si derrière on est bien entouré et qu'il y a un contrôle des parents et des adultes qui sont autour de nous, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire.
Nous avons aussi posé cette question à des élèves de 3e, 4e et 6e, Ilias, Thomas et Jeanne.
Nous allons interviewer les élèves du collège André Malraux. Est-ce que tu as un écran chez toi ?
Oui, j'en ai.
T'en as combien ?
5 à peu près.
Est-ce que t'as des réseaux sociaux ?
Oui.
Est-ce que t'as peur que les gens te jugent par rapport à ce que tu publies ?
Non, parce que j'ai que des amis, enfin, je fais en sorte qu'il n'y ait que mes amis qui le voient.
D'accord. Est-ce que t'as peur du piratage informatique avec les réseaux sociaux ?
Non, pas plus que ça.
D'accord. Est-ce que t'as peur que, par exemple, à ce que tu publies, enfin, même que tes amis jugent ta vie privée par rapport à ce que tu dis, dans tes messages, dans tes...
Non, je pense pas, parce que de une, je publie pas tant que ça, et de deux, vu que c'est mes amis,
ouais, normalement. Tu peux faire confiance. Voilà. D'accord. C'était un élève de 4e, donc un élève de 6e. T'as un écran chez toi ?
Oui.
Et t'en as combien ?
Plusieurs, mais je sais pas combien.
D'accord. Est-ce que tu as des réseaux sociaux ?
Oui, beaucoup.
Ok. Est-ce que tu publies beaucoup de photos ?
Non, pas tant que ça.
Tu fais attention à ce que tu publies ?
Oui.
T'as peur du cyberharcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux ?
Bah, ça dépend sur quels réseaux sociaux, mais...
Oui, un peu quand même.
Pas trop.
Et est-ce que t'as peur que, même par rapport à ce que tu publies de peu, que les gens, que ça atteigne ta vie privée ?
Ça peut, oui.
Nous allons donc vous présenter un élève de 3e au collège André Malraux. Donc, est-ce que tu as des écrans ?
Oui.
Tu en as combien ?
Alors, j'ai 3 télés, 2 ordinateurs... Ah non, pour moi j'ai une télé... Un ordinateur et un téléphone.
Donc, est-ce que tu as des réseaux comme Instagram, Snapchat, etc. ?
J'ai Instagram, Twitter, Snapchat.
Est-ce que tu as peur des caméras qui sont dessus, que tous les réseaux atteignent ta vie privée ?
Non, parce que je partage pas grand-chose, hein, à part des photos de moi.
Et en publication, t'as peur qu'on voit pas ton visage, etc. ?
Bah, je publie des photos de moi, donc non.
Est-ce que tu as peur qu'on juge ta prise de ta vie privée ?
Ma vie privée, je partage pas grand-chose sur les réseaux, donc... Ah, ouais, un peu.
Et voici notre chroniqueur, Eloan. Que penses-tu des écrans ?
Je pense que les écrans sont utiles car ils favorisent l'apprentissage cognitif, la réflexion et la créativité, et améliorent le repérage dans l'espace. Mais il y a aussi des inconvénients, comme les problèmes sociaux et de sommeil. Une surexposition des écrans est nocive pour la concentration. Des études montrent que des enfants utilisant trop souvent leur téléphone seraient moins heureux, plus anxieux et même plus déprimés. Et les écrans favorisent aussi les prises de poids. Mais malgré tout ça, quand on compare les moyens éducatifs entre aujourd'hui et il y a 50 ans, il est beaucoup plus facile de récupérer les cours sur Internet. Et pour les élèves ayant des difficultés, il est beaucoup plus simple d'écrire sur ordinateur.
Merci Eloane pour cette intervention musclée, comme on dit. Ah, et voilà notre jeu de l'hiver. Nous avons tiré au sort Xavier, qui va être notre invité aujourd'hui. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Est-ce que t'es content d'être ici ?
Oui, très content.
Tu penses avoir gagné quelque chose de bien ?
Oui.
Tu penses avoir gagné quoi ?
Une voiture ?
Non, mieux que ça.
De l'argent ?
Encore mieux.
Un bateau.
Oh, encore mieux que ça.
Bien, je ne sais pas.
Bravo. Tu as gagné un stylo Culture Grandvillaise.
Ah, c'est génial ça.
Bon, bah si ça vous plaît, moi je dis que les écrans, bah c'est pas nocif et c'est bien parce que ça aide à l'apprentissage. Mais à petite dose quand même. Merci de nous avoir écoutés et passez une bonne fin de journée sur Culture Grandvillaise.
Bienvenue à tous sur Collège en direct présenté par Silas, c'est-à-dire moi. Nous introduirons ce chapitre par un journal info sur l'égalité homme-femme présenté par Saliane, suivi de petites informations données par moi. On aura aussi le droit à une interview de la principale, de Monsieur Flambard, le CPE de notre collège, et Madame Véron Lebas, professeur d'anglais, réalisé par Célia, Saliane et Cyrielle. Et enfin, nous finirons cette émission par un neuroscope donné par Célia. Tout de suite, on retrouve Saliane avec son journal info. Saliane, je te laisse la parole.
Bonjour Silas, bonjour à tous. Alors commençons le journal info. Mercredi 5 février 2020, 105 entreprises françaises s'engagent à ajouter un congé paternité rémunéré pour favoriser l'égalité homme-femme. Dans le monde, en 2019, les femmes avaient que l'équivalent des 3/4 des droits des hommes. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre la discrimination, veut que le sport féminin représente 50% des diffusions télé. L'école de Saint-Nicolas de Haguenau a été retenue avec ses deux classes pour participer à la 24e édition de l'opération Parlement des enfants. Organisée par l'Assemblée nationale et l'Éducation nationale, ils se mobilisent pour plus d'égalité. Le député Philippe Boulot de Maine-et-Loire accompagne les élèves d'une classe de Carvé près de Pouancé dans la rédaction d'un projet de loi qui est de rédiger une loi sur l'égalité homme-femme dans le cadre des parlements des enfants. Au revoir et bonne journée à tous et je te redonne la parole Silas.
Merci Saliane pour ton journal. Et tout de suite je vous explique qu'en est-il de l'égalité homme-femme dans le monde. Seulement 17% des métiers sont mixtes aujourd'hui. Le salaire de l'homme est pratiquement 20% plus important que celui de la femme. Et 71% des Français désirent une femme à la tête de l'État. Tout de suite, une interview de Madame Lesnik, principale de notre collège, qui va nous expliquer le danger de l'inégalité homme-femme.
Il n'y a pas d'inégalité, c'est-à-dire qu'on fait très attention en termes de parcours scolaire, à ne pas dire bah, « tiens, les filles, vous devez faire ça, tiens, les garçons, vous devez faire ça ». Donc on travaille vraiment, nous, pour qu'il y ait cette égalité. Mais quand on regarde, par exemple, les chiffres de l'école, au-delà du collège, on se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment, vraiment acquises. Donc je dirais qu'à Malraux, oui, on travaille pour, et que je pense qu'on est dans quelque chose de bien, mais que c'est quand même un thème qui requiert beaucoup de vigilance.
Quels sont les risques de l'inégalité au collège ?
Des filles qui ont peu d'ambition, peu de motivation, qui se projettent, par exemple, dans leur parcours à venir, dans des filières qui seraient forcément celles que doit faire une fille. Donc, l'inégalité, ce serait que certaines filles voilà, n'aient pas d'ambition et qu'en plus, elles pensent qu'elles sont faites pour des métiers bien particuliers et qu'elles s'interdisent d'autres métiers. Ça, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait créer de l'inégalité. Et donc, on est obligé de travailler là-dessus pour pas qu'elles se sentent prisonnières de certains stéréotypes et qu'elles osent, au contraire, faire des choses qui, a priori, ne sont pas cataloguées pour les filles.
Y a-t-il une égalité entre adultes au collège ?
Les hommes et les femmes sont traités de manière complètement identique.
Êtes-vous la première principale femme dans ce collège ?
Oui, oui, oui. Avant moi, il n'y a eu que des hommes qui sont d'ailleurs restés longtemps. C'était plutôt un collège qu'on avait en fin de carrière. Donc, je suis la première femme. Je pense que ça a aussi un petit peu changé des choses, le fait voilà, d'avoir une femme qui est féministe, qui est soucieuse d'égalité. Je pense que ça change un peu les choses, mais il faudrait que je demande à mes élèves pour qu'elles me disent.
Nous avons interrogé notre chroniqueuse pour savoir son avis sur l'égalité homme-femme. Bonjour Cyrielle.
Bonjour Silas. Pour moi, c'est un sujet dont j'entends beaucoup parler en ce moment. Le collège fait de son possible pour qu'il y ait une égalité filles-garçons, mais j'ai remarqué qu'il y a des sports, comme le foot, où il n'y a que des garçons qui y jouent et les filles n'osent pas y jouer.
Je pense que l'égalité homme-femme n'existe pas, car les femmes sont plus intelligentes, plus sportives, plus sociables, plus gentilles. Elles ont tout en plus, elles sont meilleures que les hommes.
Par contre, je suis pas d'accord parce que... Méchant, d'accord, il y en a qui sont méchants. Moi, je suis gentil, j'ai même attendu que tu finisses ton truc. Hein. Alors, méchant...
Les filles ont toujours raison.
Nous enchaînons avec une interview de Monsieur Flambard, CPE du collège, qui va nous donner son point de vue de l'égalité homme-femme.
Alors, au sein du collège, on peut voir que les garçons ont un peu le monopole des espaces de jeu, notamment pendant les pauses méridiennes, ils sont au foot, ils jouent dans la cour de récréation, et les filles sont beaucoup plus effacées, beaucoup plus discrètes. On peut aussi remarquer que la plupart des faits de dégradation qu'on peut voir dans l'établissement sont à l'origine des faits de garçons, même si de temps en temps, mais beaucoup plus rarement, on voit que quelques filles aussi peuvent commettre quelques petites dégradations.
En quoi ça vous paraît important ?
Ce qui me paraît important dans l'égalité garçons-filles, c'est que, notamment lorsqu'ils sont en troisième, qu'ils puissent avoir le choix d'une orientation équivalente. Il n'y a pas d'orientation prédestinée pour les garçons ou d'orientation prédestinée pour les filles. Donc par exemple, les métiers tels que la coiffure ou l'esthétique pourraient très bien s'ouvrir davantage pour les garçons, mais les métiers aussi dits plus masculins, comme les métiers du bâtiment ou les métiers plus manuels, s'ouvrir davantage aussi aux filles qui le souhaiteraient.
En tant que CPE, avez-vous déjà remarqué une égalité filles-garçons dans le collège ?
Moi je me base sur des chiffres. Les chiffres révèlent que les garçons... sont moins performants scolairement que les filles. Voilà, donc on pourrait voir une inégalité plutôt positive de ce côté-là pour les filles. Je remarque aussi que les élèves que je reçois le plus dans mon bureau pour des problèmes de comportement ou de vie en collectivité, ce sont davantage les garçons que les filles. Mais, aussi bizarre que ça puisse paraître, les choses tendent à s'amenuire, avec le temps. Et après, évidemment, dans le traitement que nous faisons en suivi d'élèves, nous accompagnons les filles et les garçons exactement de la même manière, avec la même attention, avec le même souci d'égalité et avec le même souci d'une orientation désirée, voulue, choisie.
Tout de suite, l'horoscope donné par Célia. Célia, bonjour.
Bonjour Silas. Les qualités des signes. Bélier est courageux et sincère. Taureau est sage et fidèle. Gémeaux est curieux et versatile. Cancer est généreux et sensible. Lion est fier et plein de vie. Vierge est vrai et simple. Balance est courtois et équilibré. Scorpion est passionné et résolu. Sagittaire est sans peur et sans reproche. Capricorne est patient et fidèle. Verseau est altruiste et dynamique. Et Poisson est fort et solidaire.
Maintenant une interview de Madame Véron Lebas, professeur d'anglais très investi dans l'égalité homme-femme.
Il y a plusieurs choses qui sont faites. Alors, par exemple, Madame Jardet et moi-même, on a fait l'adaptation d'une petite pièce de théâtre, enfin, l'adaptation d'un livre en petite pièce de théâtre. C'est le livre qui s'appelle Renversante. Et puis, donc, ce sont des élèves de quatrième volontaires qui ont souhaité jouer dans la pièce. On a fait des stop-motion aussi. Il va y avoir donc toute une semaine dédiée aux jeunes filles, plutôt. Alors, donc il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir par exemple une femme qui s'appelle Marta Diomande qui va venir parler de l'excision au collège. Il va y avoir aussi le pôle famille qui va venir et qui va se déplacer pour parler des violences faites aux femmes. Il va y avoir aussi une sortie le vendredi après-midi parce que la SNCF a organisé un Girls' Day et elle souhaite ouvrir ses portes et donc elle va ouvrir les portes de ses ateliers de la maintenance spécialement pour les jeunes filles.
L'égalité homme-femme, filles-garçons progresse heureusement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, à bientôt.
La ville de Granville a un message pour vous.
Afin de soutenir et encadrer les initiatives qui fleurissent sur le territoire, la ville de Granville a mis en place le dispositif Solidarité Ville de Granville. Ce réseau, validé dans sa mise en place et son fonctionnement par les professionnels du groupement hospitalier territorial Avranches-Granville, permet de suppléer les aides à domicile auprès des personnes âgées et isolées, comme le portage de courses ou de médicaments. Pour le rejoindre, composez le 07 87 22 82 26 07 87 22 82 26. Plus d'infos sur www.ville-grandville.fr.